France Culture. France Culture, de cause à effet. Aurélie Luneau.
COP30, le clap de fin. Un accord a été adopté samedi 22 novembre à Belém, au Brésil, où se déroulait la 30e conférence des parties, pour continuer à coordonner la réponse internationale à la crise climatique. Force est de constater que la réponse n'a pas été à la hauteur des ambitions et des attentes, avec la signature d'un texte minimal qui ne mentionne pas explicitement la sortie des énergies fossiles. Alors, quel bilan peut-on tirer de cette COP30? 10 ans après l'accord de Paris, quel horizon se dessine pour l'humanité censée sauver l'habitabilité de la planète? Dans le cadre de cette émission, en partenariat avec le journal Le Monde, j'ai le plaisir d'accueillir Audrey Garic. Bonjour.
Bonjour Aurélie.
Merci d'être avec nous parce que vous venez de descendre de l'avion, carrément. Donc après 48 heures de voyage et 3 heures de sommeil, j'espère que cette émission vous tiendra éveillée. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes journaliste au Monde, à la rédaction des pages Planète, et vous avez fait partie des envoyés spéciaux à Belém. À vos côtés, Lola Valéjo, bonjour.
Bonjour Aurélie.
Vous êtes ancienne directrice du programme Climat à l'IDRI et directrice diplomatie à la Fondation européenne pour le climat, et vous avez vous-même couvert cette COP, vous y avez pris part, rentré légèrement plus tôt, mais en tout cas, vous allez pouvoir nous faire ces retours de terrain. Marc-Antoine Ailmazega, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du Centre Énergie et Climat de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et vous êtes co-auteur du livre paru aux éditions Le Cavalier Bleu, ce livre intitulé Géopolitique du carbone. Merci d'être avec nous.
Merci.
Et bienvenue, bien sûr, à tous les trois, à nos auditeurs également. C'est le magazine de l'environnement de France Culture, en partenariat donc avec le journal Le Monde, émission toujours préparée par Célestine Babinet, avec la collaboration de Aurélie Marcet, Vanessa Chang, Pierre Pinault de l'INA, celle des équipes de documentation de Radio France, émission réalisée par Alexandra Malka, avec à la technique aujourd'hui Mineta Diawara.
Alors que le texte est adopté par consensus, la Colombie affiche sa colère, entraînant une suspension de séance inédite.
Ignorer les meilleures données scientifiques disponibles met en péril non seulement le régime climatique, mais aussi notre propre existence. Quel message envoyons-nous au monde ?
Une intervention qui illustre la déception de nombreux pays envers l'accord de cette COP30. Car un point crucial manque dans ce texte, une feuille de route de sortie des énergies fossiles. Des engagements clairs auxquels avaient adhéré plus de 190 pays à la COP28 de Dubaï en 2023. Mais cette année, certains États pétroliers, dont la Russie ou l'Arabie Saoudite, s'y sont fermement opposés. Le président de la COP30 a annoncé malgré tout son intention de lancer une feuille de route pour les États volontaires. Pas de quoi convaincre les ONG de défense de l'environnement.
Nous avions un élan très fort, avec 80 pays soutenant cette mesure, et nous avons perdu ce texte. Il est extrêmement décevant de constater qu'une volonté politique et un mouvement se développent en dehors de ce centre de conférence. Mais cela ne se traduit pas dans le texte, et c'est là que réside notre profonde déception.
Reportage diffusé sur France 24 le 23 novembre 2025, un bilan en demi-teinte et qui laisse beaucoup de déceptions. Dans quel état d'esprit rentrez-vous, hein, tout d'abord Lola Valéjo et Audrey Garic, au regard de ces jours passés sur place? Lola Valéjo.
Évidemment avec ce sentiment de déception concernant les fossiles, parce que effectivement c'est un résultat qui est décevant de ce point de vue-là, quand même aussi avec un certain soulagement, parce que dans le contexte actuel, avec les attaques extrêmement violentes de l'administration Trump sur le climat, les règles, les COP, c'est en fait tout ce qu'ils détestent. Donc on s'attendait à ce que, malgré la sortie des États-Unis de l'accord de Paris, on ait des attaques virulentes et en fait une envie de peser. Alors ça peut-être eu lieu, mais de façon beaucoup plus implicite, ou quelque part il n'en avait pas besoin, parce qu'il y avait beaucoup d'émissaires qui jouaient ce rôle-là au sein des négociations. Néanmoins, le fait que malgré toutes ces difficultés et malgré les déceptions, les pays décident quand même d'envoyer un signal que les COP sont là, on a un multilatéralisme climatique encore debout, et la majorité des pays continuent d'envoyer des nouveaux engagements, c'est un signal important, et je pense qu'il fallait l'envoyer à Belém.
Là où on peut le dire, on en parlera, Donald Trump aurait probablement aimé l'éclatement du multilatéralisme.
Absolument, oui, parce que il a joué un rôle, peut-être les auditeurs ne le savent pas, extrêmement important dans une autre arène internationale, l'Organisation Maritime Internationale, qui devait adopter des règles, notamment un prix du carbone pour réduire les émissions dans le secteur maritime. Et alors qu'on avait un consensus très large, les États-Unis ont fait une véritable campagne d'intimidation extrêmement personnelle et extrêmement directe sur des délégués, notamment des délégués de petits États, en menaçant de barrières douanières, de rétributions personnelles, finalement des techniques vraiment très de bully, enfin de bon, extrêmement dommageable et contraire à tout ce à quoi servent les négociations internationales. Donc voilà, on avait ce précédent qui était quand même très vif à l'esprit et qui a beaucoup marqué et beaucoup choqué, je pense, la communauté internationale.
Sachant que, si je ne me trompe, le secteur maritime est un des moins décarbonés et qu'il y a encore une grande marge de manœuvre.
Oui, et puis ça donnait l'espoir, l'idée qu'on puisse se mettre d'accord sur un prix du carbone international qui allait aussi générer des recettes. Enfin, c'était un compromis qui était négocié depuis des années avec l'industrie. Et c'était important parce que finalement, ces transports internationaux, ils échappent souvent aux engagements des États. Donc c'était une très bonne nouvelle. Alors, ce n'est pas complètement perdu, ça a été retardé d'un an. Mais on voit voilà, les techniques de retard et d'obstruction à l'œuvre.
Certains gagnent du temps. Audrey Garrick.
Mais comme Lola, je suis aussi partagée entre un léger soulagement, mais surtout des grosses déceptions. Je trouve que la COP a sauvé la face, mais pas le climat, si on doit le résumer, parce que il y a eu donc effectivement cet attachement au multilatéralisme qui est très important et qui a été réitéré, qui montre qu'on a réussi à faire tampon par rapport à la politique agressive de Donald Trump. Mais néanmoins, les deux semaines de COP ont montré des très fortes divisions entre les pays, et on n'était pas du tout dans l'esprit, je trouve, du Mutirao, qui était le terme qui a été martelé par la présidence pendant toute la COP. C'était sa devise. C'est un terme autochtone qui veut dire l'effort collectif vers un but commun. Et là, bon, clairement, c'était pas ça. Il y a eu vraiment des importants affrontements entre Nord et Sud, et après aussi au sein de ces blocs entre d'autres pays. Donc ça, c'est décevant. La petite avancée, c'est le fait d'avoir décidé de tripler les financements climatiques pour l'adaptation au changement climatique des pays du Sud, c'est-à-dire le fait de pouvoir faire face pour eux aux canicules, aux sécheresses, aux inondations qui sont de plus en plus importantes. Mais même sur cette petite avancée, c'est pas une victoire non plus, parce que les termes sont très flous et donc c'est peu contraignant, engageant pour les pays du Nord qui vont devoir normalement livrer ces fonds. Et puis après, évidemment, l'énorme déception, c'est sur ce que vous disiez sur les combustibles fossiles. On voit que l'accord de Dubaï, le fait de s'être engagé il y a 2 ans à sortir ou à faire une transition en dehors du charbon, du pétrole et du gaz, qui sont les premières causes du changement climatique. Cet accord, il est très précaire et il est attaqué de toutes parts depuis. Et pour beaucoup d'États, dont l'Arabie Saoudite, l'Inde en tête, mais d'autres du groupe arabe ou alors d'autres grands émergents, c'est pas quelque chose qu'ils sont prêts à faire. En fait, ils ont, pour eux, l'accord de Dubaï, s'il y avait 3 points, les énergies fossiles, mais après aussi tripler les énergies renouvelables et doubler l'efficacité énergétique. Et eux, ils voyaient ça plutôt comme un menu d'options plutôt que faire les 3 en même temps. Donc là, maintenant, on arrive dans le dur. Il faut réellement s'attaquer au changement climatique, mettre en œuvre, appliquer toutes les décisions. Et celle-là, c'est la plus dure. Et on a vu qu'on n'y arrivait pas. En tout cas, la feuille de route volontaire qui a été adoptée, c'est absolument insuffisant.
Et oui, 10 ans après l'accord de Paris, se réengager et mettre en action.
Voilà.
Marc-Antoine Aelmazega, vous, cette COP, vous l'avez suivie depuis la France. On comprend que le contexte aussi est primordial pour mieux analyser le bilan de cette COP, qui est présentée comme une COP ou ratée et plus qu'à minima. Mais en même temps, c'est plus compliqué que cela. Il faut nuancer, parce qu'elle aurait pu voler en éclats et faire le jeu des États-Unis, ce qui n'a pas été le cas. Rappelons le contexte, peut-être, où l'armement et la sécurité territoriale sont plus au cœur des préoccupations et des investissements en Europe notamment, plutôt que les questions climatiques. On en est là aussi.
Absolument. Effectivement, la situation qui résulte de cette COP montre au fond les très profondes fragmentations et fractures internationales. Un monde qui est en phase de réarmement accéléré, tout azimut, et où, en fait, clairement, les dépenses mondiales d'armement sont largement supérieures aux dépenses et aux investissements dans les technologies bas carbone. Donc en fait, si on voulait être aligné sur une lecture ambitieuse de l'accord de Paris, il faudrait inverser ces chiffres, c'est-à-dire que dépenser bien plus pour les technologies bas carbone et moins pour l'armement. Mais maintenant, c'est mutuellement exclusif, donc tout ce qu'on met dans l'un, on ne peut plus le mettre dans l'autre. Et la priorité des États, c'est bien sûr la sécurité dure, au sens des rapports de force entre puissances, et on pense bien sûr à l'agression russe en Ukraine et contre l'Europe, mais il y en a une autre qu'on oublie souvent en Europe. Parce que en Europe, on est dans une situation où la consommation d'énergie n'augmente pas. Or, un certain nombre de grands pays consommateurs dans le monde voient une croissance de leurs besoins énergétiques, notamment électriques, avec des chiffres à deux chiffres de croissance annuelle par an. Donc, quand vous êtes ministre de l'énergie d'un pays d'Asie du Sud-Est, eh bien, votre préoccupation, elle est en réalité très éloignée des sujets qui sont parfois abordés au COP. Et vous, votre préoccupation, c'est ben pour satisfaire la croissance économique, les besoins en dessalement d'eau de mer, les data centers, les infrastructures, la climatisation, développement des populations, eh bien, il faut dans l'urgence, ajouter des capacités de production. Et un certain nombre de ces pays, bien sûr, voient l'avantage d'utiliser des énergies renouvelables, mais ils ne veulent se fermer aucune option parce que, au fond, il faut agir très vite, très fort, et c'est ça la priorité. Et donc, là-dedans, on inclut aussi les hydrocarbures qui continuent de représenter 80% de la consommation énergétique mondiale. Donc, en fait, on est très loin d'être sorti du gaz, du pétrole et du charbon, malheureusement, mais on en parlera. Il y a quand même un certain nombre d'avancées par les marchés, par les avancées technologiques, par le fait que tout un tas de technologies sont désormais parfaitement abordables et intégrables dans les systèmes énergétiques, qui font que malgré effectivement ce sentiment de frustration, d'échec, il y a quand même un certain nombre de développements de fonds qui vont dans le bon sens.
Oui, parce qu'il faut aussi reconnaître que les énergies fossiles comme cause du réchauffement climatique, hein, dans le cadre de la COP en 2025, ne pas les reconnaître, c'est en total décalage aussi avec les rapports scientifiques. Qu'est-ce que cela dit aussi de la place, par exemple, du GIEC? Est-ce qu'il en a été question dans les discussions? Ça se pose quand même, hein, Lola Vallejo.
Pour rebondir sur ce que Marc-Antoine vient de dire, l'idée que la transition est irréversible, ça c'est quelque chose qui fait partie de la décision finale. Donc il y a aussi une sorte de... Bon, ça sert à rien peut-être de rentrer dans le détail de tout ce qui est écrit, mais n'empêche que les fondamentaux économiques, ils sont effectivement là. Je vais rappeler aussi un autre chiffre de l'Agence internationale de l'énergie. Il y a 5 ans, on investissait les mêmes montants dans les fossiles et dans les technologies propres, et maintenant, on investit 2 fois plus dans les technologies propres que dans les fossiles. Donc, il y a quand même des lames de fond. C'est un gros paquebot, effectivement, donc changer et avoir des résultats vraiment visibles sur le climat, ça va mettre du temps, mais il y a quand même quelque chose qui s'est enclenché, et ça, tout le monde est d'accord. Néanmoins, c'est vrai qu'on devrait aller plus loin, et notamment sur ce qui est préoccupant, c'est le signal faible aussi du fait que le GIEC soit contesté aussi dans ces processus multilatéraux. Pour des raisons de représentativité, d'inclusivité. Il y a des pays du Sud qui disent on n'est pas assez représentés, on n'a pas assez de capacités. Les grands modèles scientifiques et économiques sont basés dans des pays développés, donc on ne se sent pas représenté. Et il y a des critiques de bonne foi, et puis aussi des critiques qui sont aussi instrumentalisées, évidemment, pour semer le doute sur ce qu'il faut faire et le fait qu'on connaisse les solutions. Donc encore une fois, c'est encore assez clair, mais le simple fait qu'il faille électrifier les usages énergétiques, c'est quelque chose qu'on remet beaucoup en question, enfin que certains remettent beaucoup en question dans les COP, et ce sont les mêmes qui ne veulent pas qu'on parle de fossiles dans ce qu'on retient de la décision finale.
Alors il y a eu des tentatives de pression quand même durant ces journées et de la part de certains pays pour aller plus loin. Je propose d'écouter ce reportage diffusé sur TV5 Monde le 22 novembre 2025.
Collègues, amis, le texte politique qui circule est tout simplement inacceptable. Ce n'est pas une base sérieuse pour négocier, c'est un échec pour l'Amazonie, pour la science, pour la justice et pour les gens que nous représentons.
Plus de 80 pays, européens, latino-américains et insulaires, réclamaient un texte ambitieux, mais la présidence brésilienne de la COP propose un compromis bien plus limité.
L'objectif est de parvenir au meilleur résultat, mais le temps ne peut pas être un obstacle au débat indispensable sur un sujet si complexe.
Face au blocage, des pays comme la Colombie, devenue l'un des porte-voix anti-pétrole, haussent le ton.
Il est inconcevable que ceux d'entre nous qui sommes engagés en faveur de la vie sur cette planète et de la justice climatique soyons contraints d'accepter un texte médiocre.
France Culture, de cause à effet, Aurélie Luneau.
Alors, il y a toujours des jeux d'entente, de mésentente, de coalition, et vous y avez assisté, Lola Vallejo et Audrey Garic. Qu'est-ce qui s'est joué à certains moments? Parce que, au regard des non-experts, on voit que l'Europe, par exemple, a crié au loup par rapport au texte qui n'était pas suffisant. En même temps, on lui aura aussi reproché de ne pas vouloir suffisamment participer au fond pour aider les pays en voie de développement et les pays les plus petits, les pays insulaires. Voilà. À quoi vous avez assisté dans ce jeu-là? Est-ce que cette pression, elle a pu justement jouer son rôle de pression ou c'était un peu une façon de s'afficher?
Mais c'est toujours un théâtre, les COP, et avec des jeux de posture, avec des retournements de situation, des rebondissements et beaucoup de marchandage. En fait, si tout est bloqué à un moment, c'est parce que tous les dossiers sont imbriqués et chacun peut réussir à dénouer l'autre, mais tout peut se dénouer d'un coup. Donc là, il y avait effectivement beaucoup de blocages et une partie de ces blocages a été liée, de ce que nous ont dit beaucoup d'experts aussi, à la position qu'a tenue l'Union européenne dès le départ de s'opposer, de fermer la porte à toute demande financière supplémentaire des pays du Sud. Donc pour l'Union européenne, elle veut pas payer en fait maintenant davantage parce qu'elle considère que déjà c'est le premier contributeur de finances climatiques mondiales.
En sachant que les États-Unis en plus se sont retirés.
Les États-Unis se sont retirés, donc n'ont pas payé une partie de ce qu'ils avaient promis. Et il y a d'autres contributeurs néanmoins, le Royaume-Uni, le Japon, les banques multilatérales de développement, etc. Mais c'est vrai que c'est l'Union européenne qui paye le plus l'addition. Et on est dans un contexte d'austérité budgétaire, de populisme qui surfe contre l'environnement.
De réarmement,
on l'a dit. Et donc il faut justifier aux opinions publiques pourquoi on va dépenser de l'argent pour aider les pays du Sud. En réalité, c'est pas de la charité, c'est une dette. Oui. L'Union européenne, c'est celle qui est la deuxième empreinte carbone historique la plus élevé en fait après les États-Unis et devant la Chine si on regarde bien toutes les émissions. Donc il y a une justification à demander de l'argent à l'Union européenne aussi, mais donc l'Union européenne ne le souhaitait pas. Ça a bloqué, ça a empoisonné tous les dossiers, que la finance est vraiment essentielle dans les négociations climatiques et on n'a pas pu avancer rapidement sur les autres dossiers qui étaient essentiels, donc essayer de trouver une voie de sortie des énergies fossiles et surtout aussi relever les objectifs climatiques nationaux qui sont insuffisants. On est avec l'accord de Paris, c'est les 10 ans de l'accord de Paris, il y a un cycle. Tous les 5 ans, tous les pays doivent accroître leurs objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Là, c'est pas suffisant, puisque les objectifs actuels nous mènent sur une trajectoire de réchauffement de 2,5 degrés à la fin du siècle, donc c'est très loin de l'objectif premier de l'accord de Paris, 1,5 degré. Ouais. Donc par rapport à ça, l'Union européenne essayait d'avoir plus de garanties qu'on allait accélérer l'action face à un réchauffement dont on voit tous les conséquences dramatiques tous les jours, et elle n'a pas réussi à embarquer d'autres pays parce qu'il y a eu des pressions énormes et une obstruction énorme de grands émergents comme l'Inde, de l'Arabie Saoudite qui bloque tout le temps les négociations. Mais peut-être aussi si elle avait lâché plus rapidement sur les financements, elle aurait pu embarquer une partie des pays qui étaient un peu le ventre mou dans les négociations, les pays africains ou les petites îles qui sont d'habitude son traditionnel allié. Et là, cette fois-ci, qu'ils sont un peu détournés de l'Union européenne. On a entendu beaucoup de critiques, même en amont en fait de la COP, de la part des petites îles à l'encontre de l'Union européenne, ce qui n'était pas le cas d'habitude, parce qu'aussi l'Union européenne a rendu son plan climatique très en retard, donc se pose un peu comme donneuse de leçons alors qu'elle n'avait pas fait elle-même ses devoirs. Et tout ça, ça n'a pas aidé à la négociation. Et maintenant, pour des pays africains ou pour les petites îles, la priorité, c'est l'adaptation. Donc, ils voulaient d'abord de l'argent pour s'adapter au changement climatique, avant de pouvoir donner des garanties en échange, de pouvoir sortir des fossiles et de pouvoir accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui sont deux sujets différents, mais liés.
En sachant que parmi les pays qui ont entravé les négociations, il y avait, vous avez mentionné l'Inde, l'Arabie Saoudite, on peut aussi dire la Chine et la Russie. Et la Chine qui, elle, a grandement utilisé les énergies fossiles et les utilise encore pour avancer à marche forcée sur les énergies renouvelables.
Hein. Alors visiblement, la Chine était quand même moins vocale que l'Inde ou que l'Arabie Saoudite dans les blocages, parce qu'elle est aussi très engagée dans sa propre transition. Elle a livré un plan climat qui est ambitieux, mais qui est la première fois, c'est la première fois qu'elle s'engage sur un objectif de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2035. Donc elle n'avait pas tout à fait le même rôle que d'habitude. Elle a peut-être moins bloqué que d'habitude. Et elle a surtout lancé pour la première fois le sujet du commerce. Comment collaborer pour décarboner, mais tout en protégeant ses intérêts nationaux.
Nous allons
nationaux,
en parler.
Voilà, il y a beaucoup d'opposition sur ça.
Nous allons en parler dans un deuxième temps. Lola Vallejo, constellation d'entente, différents intérêts, des attentes. Il y a aussi une méthode, je vous laisser répondre bien sûr à ces questions de coalition, mais la méthode utilisée de la shuttle diplomatie, la navette en fait entre les différents groupes, est-ce que c'était une bonne solution? On voit bien qu'elle a été pointée du doigt dans ces façons d'essayer d'obtenir quand même des avancées.
Oui, alors pour ceux qui ne sont pas dans le détail des COP, les pays sont...
Mais c'est important de donner à comprendre ce qui s'y passe, justement.
Absolument. Les pays sont regroupés par groupes, souvent régionaux, mais pas uniquement, qui ont des intérêts communs et essayent de faire des coalitions pour arriver à convaincre que c'est dans leur position que se retrouve le consensus. Et la deuxième semaine des COP, c'est là où, en général, tous les points les plus politiques, les plus sensibles, sont élevés au niveau des ministres, c'est-à-dire que on reconnaît que on va pas pouvoir régler ces problèmes-là au niveau des négociateurs qui, en gros, suivent les instructions de leur capitale. Le problème qu'il y a eu, c'est que la présidence brésilienne a décidé de faire, comme vous l'avez dit, la diplomatie de la navette, c'est-à-dire eux aller voir différents groupes de pays, différentes délégations, et en fait être les seuls répositaires de le compromis qui me semble correct, c'est ça, sans donner à voir quelles sont les positions des uns et des autres. Et ça a généré beaucoup de frustration et beaucoup de défiance, parce que c'est difficile de se compter. Notamment, par exemple, alors on peut aussi utiliser des déclarations, des conférences de presse et autres pour donner ça à voir. Mais par exemple, pour les 80 et quelques, 90 selon certains comptes pays qui poussaient pour qu'on aille plus loin sur le comment on sort des fossiles.
Sur 194, hein, il faut
le rappeler. Sur 194, absolument. Donc un peu moins de la moitié, mais quand même une coalition assez importante. Ces pays arrivaient à lever la main et à dire, voilà, nous, on y croit. Il y a beaucoup de pays latino-américains, beaucoup de pays européens, beaucoup de petites îles en développement. Et en face, en fait, on n'arrivait pas à entendre les arguments, parce que ça, on ne peut le faire que quand on est en plénière. Et donc, ce qu'a fait la présidence brésilienne a été assez critiqué et a fait qu'on a finalement une appropriation moindre des résultats finaux, parce que finalement, tous les petits compromis se sont faits en chambre et n'ont pas été discutés et compris. C'est aussi pour ça qu'il s'est passé un autre... Alors, effectivement, il y a beaucoup de dramaturgie dans les COP, mais là, ouais, particulièrement quand même... À la fin, quand tous les textes ont été adoptés, on a eu une ribambelle de pays, près d'une dizaine, qui ont levé la main et qui ont dit « Je ne suis pas d'accord avec le texte qui vient d'être adopté. J'avais demandé à faire entendre mon désaccord. Je le fais maintenant. » Et ça pose une question de méthode très forte et de légitimité importante.
Oui, Audrey Garic.
Et de transparence. Moi, c'est vrai que c'est la première fois que je vois ça sur toutes les dernières COP, qui est pas, en tout cas sur les 10 derniers jours, il n'y a pas eu de plénière publique aussi ouverte à tout le monde, y compris aux médias et pas seulement aux observateurs. Donc, pour savoir les positions des uns et des autres, il faut avoir, évidemment, c'est notre travail aussi d'aller chercher des sources dans les délégations, mais on peut pas entendre tous les arguments officiels de tous les groupes de négociation. Ça, c'était un vrai problème.
Marc-Antoine Aïl-Mazega voulait peut-être nous éclairer sur certains points, d'ailleurs, et on a aussi beaucoup parlé de l'Europe, cette Europe qui a vu certains de ses alliés, comme les petites îles, la lâcher dans cette COP30.
Ça intervient dans un contexte où, d'une manière générale, l'aide au développement européenne est en recul. Parce qu'une partie de cette aide a été réallouée au soutien financier et militaire de l'Ukraine. Ça intervient effectivement dans un contexte où on interroge la pertinence d'un certain nombre de mécanismes de financement qu'on avait, parce qu'on voit qu'un certain nombre de pays qui étaient récipiendaires, eh bien, en réalité, ne font pas exactement ce qu'on souhaiterait qu'ils fassent, ou n'ont pas le niveau de transparence ou de bonne gouvernance, etc., qu'on attend. Et ça a été rappelé, en fait, l'UE a cristallisé un certain nombre de frustrations de pays dits du Sud, parce que il n'y avait plus les États-Unis sur qui taper, puisqu'ils n'étaient plus là. Pour la raison qu'on a évoquée, c'est que oui, historiquement, on est un des plus grands contributeurs aux émissions de gaz à effet de serre en cumul historique. et même la Chine aurait été, qui est le premier émetteur aujourd'hui, actuel, en cumul historique sur 250
ans,
ne l'est pas, pratiquement pas. Et l'Inde, on le voit même pas dans les graphiques, tellement que c'est infime ce qu'ils ont émis.
Je suis pas d'accord. La Chine, c'est à peu près le niveau de l'Union européenne aujourd'hui en émissions historiques au global. Alors après, on peut dire la Chine en habitant. Si on ramène ça par habitant, est loin derrière.
Oui.
Mais en fait, au global, aujourd'hui, c'est
elle a rattrapé
c'est
l'Europe et les États-Unis, parce qu'il ne faut pas les oublier.
Les États-Unis
historiquement,
sont encore devant
mais l'Europe.
Et l'Europe sont
rappelons-le.
Ils sont les États-Unis font la course en tête, effectivement. Et donc, on est dans cette situation où, alors effectivement, les Européens ont du mal à arriver avec un objectif beaucoup plus ambitieux de décarbonation, mais les Européens sont en train de faire deux choses en même temps. C'est qu'ils essaient de négocier leur propre objectif de décarbonation à l'horizon 2040. Et là, ça bloque parce qu'on est dans une crise industrielle en Europe. On a une vague de montée de populisme, comme on dit.
Une grosse concurrence de la Chine les éoliennes. Enfin, je pense que le marché des éoliennes, du solaire, c'est la Chine qui se l'est
accaparé. En fait, on sort d'un monde où les Européens maîtrisaient l'ensemble des technologies énergétiques. Et on bascule dans un monde où c'est la Chine qui maîtrise toutes les technologies de demain.
Voilà.
Tant du point de vue de l'innovation que de la capacité manufacturière, puisque même si on sait produire exactement la même chose, eux le produisent à de telles échelles que c'est toujours moins cher. On est sur une ligne de crête. Et alors, les Chinois nous disent...
Donc, dans une dépendance.
On est dans une dépendance qui risque, où il y a déjà des cas avérés, de basculer dans une vraie vulnérabilité. Et les Chinois disent au monde entier, mais aussi européens, si vous voulez accélérer votre décarbonation, prenez des équipements chinois. C'est déflationniste, en fait. Oui. On a tout payé, subventionné, et vous pourrez faire déployer l'éolien en mer plus rapidement, etc. La mobilité électrique. Mais si on fait ça, on désindustrialise chez nous.
Exact.
À court terme, on baisse les émissions, mais à moyen long terme, malheureusement, on aura des sérieux, encore plus de déséquilibres institutionnels, sociaux, politiques.
Alors, on a parlé du versement, donc du triplement des financements pour les pays les moins favorisés, donc en passant de 40 milliards à 120 milliards de dollars par an, c'est ça, non, d'ici 2030
C'est pas écrit dans le texte. C'est pas écrit dans le texte, c'est ça le problème, c'est que c'était la demande des pays en développement de voir ce triplement de 40 à 120 milliards de dollars par an.
Oui.
Et en réalité, le texte indique seulement un triplement des financements d'ici à 2035, mais il n'y a pas la base de référence, et il n'y a pas non plus le fait que ce soit les pays développés qui doivent donner ces fonds.
Parce que déjà le fonds de financement devait assurer 40 milliards de dollars par an et on n'en est qu'à 26 milliards, enfin on n'atteint déjà pas la somme. D'accord. Donc en tout cas, petite question, puisqu'on parle de la Chine. La Chine aujourd'hui, vu son degré de développement, est-ce qu'elle ne pourrait pas mettre au pot dans ses financements?
Alors, déjà, la Chine, dans ses exportations de technologies propres, exporte déjà davantage dans les pays en développement que dans les pays développés en valeur, et c'est amené à continuer. Sauf que pour la Chine, c'est des débouchés commerciaux. C'est pas du tout du même ressort que la finance climatique, en utilisant les langages des COP, relève d'une dette historique des pays développés, etc., avec un groupe de pays qui est traditionnellement, en gros, les pays qui étaient développés en 92. La Chine a quand même changé depuis 2 ans de discours. Elle parle de plus en plus de ce qu'elle appelle la coopération sud-sud. C'est en fait une façon de faire de la finance climat sans le dire.
D'accord.
Et de se poser non seulement en fournisseur de technologie, mais aussi en partenaire. On parle pas forcément de développement ou de... On reprend pas le langage de la coopération historique qu'on a, par exemple, en France ou en Europe. Mais ça relève quand même un petit peu du même esprit.
En s'assurant, du coup, de nouveaux marchés.
Oui, et en fait, la Chine, depuis longtemps, a quand même une stratégie très claire avec ce qui s'appelait les nouvelles routes de la soie, de développer des infrastructures qui sont utiles pour le développement, des infrastructures de connectivité, beaucoup de transports, de routes, qui servent aussi, encore une fois, tout est dans le nom, à développer des nouveaux débouchés commerciaux dans l'arrière-cour de la Chine et ce qu'elle considère être aussi son terrain d'influence.
Quel est l'intérêt de l'Europe, Marc-Antoine Ailmazega? Est-ce que l'Europe doit justement, d'ici, enfin le temps court, mais d'ici la prochaine COP, soigner ses relations avec des pays émergents comme l'Inde, le Brésil, la Chine?
C'est la priorité actuelle de la Commission européenne, et c'est soutenu par la plupart des États, c'est finalement de relancer des partenariats commerciaux avec, par exemple, les pays d'Amérique latine au sein du Mercosur, avec l'Indonésie. Un traité de libre-échange a été signé, il y en a un qui est en finalisation de négociation avec l'Inde, l'Australie également, on a eu le Canada. Donc oui, là, il y a une vraie volonté d'aller de l'avant et une demande de ces pays. Et donc, en fait, l'Europe est loin d'être isolée parce que un certain nombre de pays ne veulent pas être pris dans cet affrontement entre la Chine et les États-Unis et veulent aussi avoir d'autres options. Et l'Europe est une bonne option et l'Europe a un cadre prévisible. On sait où elle va quand même, grosso modo. Elle veut vraiment décarboner, etc. Avec la Chine, c'est vraiment un cas à part parce qu'on est dans un contexte où les relations sont extraordinairement dégradées. On a cherché à maintenir une coopération climatique, mais en réalité, les sous-jacents industriels et de sécurité économique sont extrêmement préoccupants parce que notre déficit commercial de l'Union européenne avec la Chine augmente. Il a dépassé l'année dernière les 300 milliards d'euros. Et au deuxième trimestre de cette année, il a fait plus 20 milliards. Et quand on regarde ce qu'il y a dans ces 20 milliards, ben, il y a des véhicules électriques et des batteries. Il y a de la pétrochimie qu'on produisait en Europe et qu'on importe maintenant de Chine. Et il y a de plus en plus de machines-outils. Donc en fait, là où on gardait un avantage comparatif sur la Chine, on est en train de l'éroder à marche accélérée. Et donc, c'est très préoccupant. Et vous évoquiez le fait que la Chine ait mis le pied sur la table, en disant le pied dans le plat, en disant il faut qu'on parle de commerce et contre les droits de douane et les mesures de sécurité économique qui sont mises en place par tous les pays développés et émergents. Parce que le Brésil fait la même chose, la Turquie fait la même chose, etc. Et là, le problème, c'est qu'évidemment, ils attaquent les Européens qui mettent en place leur mécanisme d'ajustement carbone aux frontières et tout un tas de mesures de restriction aux importations pour protéger finalement la production intérieure. Mais au fond, c'est la conséquence aussi de stratégies de dumping chinoises. Alors, ce n'est pas forcément volontaire, mais de fait, c'est ce qui se passe. Et on voit qu'effectivement, les prix extrêmement dépréciés de l'acier, parce qu'il y a des surcapacités de production du fait de l'investissement en Chine, c'est en train de tuer nos aciéristes en Europe, mais aussi les Turcs et les Brésiliens. Et donc, tout le monde cherche à se protéger. Et
ce que vous nous dites, c'est que la réindustrialisation européenne, c'est un vœu pieux?
Non, c'est pas un vœu pieux, mais c'est extrêmement difficile dans ce contexte-là, sachant que la Chine a déprécié sa monnaie de 20%. Donc, on a mis, par exemple, des droits de douane sur certains biens chinois qui ont eu un certain effet. Mais quand la Chine, en réaction, a déprécié sa monnaie et, par ailleurs, trouve des façons de les contourner, parce que, en fait, on n'ose pas non plus mettre en œuvre l'ensemble des arsenaux dont on dispose, parce que, en fait, on est très vulnérable, par exemple, sur les fournitures de métaux et de terres rares, et on sait que la Chine a arsenalisé cela à l'encontre des États-Unis, mais au fond, on nous envoie le même signal. Et on a des industriels qui sont à court de métaux, et donc ça, c'est dramatique, parce qu'ensuite, on ne peut plus produire, et notamment dans l'armement.
Donc, cette dépendance, elle existe, mais attention peut-être pour l'Europe à ne pas passer d'une dépendance à la Russie, par exemple, pour le gaz, à une dépendance à la Chine pour les technologies et les métaux rares, non?
Ah oui, c'est le grand risque. Et aussi au gaz américain en substitution au gaz russe. Et donc, effectivement, il faut qu'on arrive, au fond, à maîtriser ces dépendances. On ne sera jamais indépendant, on ne sera jamais souverain d'un point de vue énergétique et industriel. Mais l'enjeu, c'est de bien les maîtriser. Donc, par exemple, sur les technologies bas carbone, oui, il y a des choses qu'on peut continuer d'importer de Chine. Mais il y a certains équipements qui sont très sensibles, sur lesquels il faut être très clair, il faut que ça soit produit dans l'OTAN.
Par exemple
Par exemple, des équipements pour le secteur électrique, des transformateurs, certains équipements pour les éoliennes. Mais la résilience industrielle et économique, elle coûte de l'argent. Donc, c'est plus au moins coûtant, c'est en réalité au plus résilient.
Et là où l'État chinois soutient massivement et finance massivement l'industrialisation dans son pays.
Bien sûr. Donc, d'une certaine façon, on pourrait bénéficier de ces subventions, et on le fait, mais il faut savoir mettre des limites, sinon on risque d'être encore plus vulnérable.
Audrey Garic et Lola Valéjo, peut-être, parce que c'est vrai que le texte final prévoit d'instituer un dialogue sur le commerce mondial. Comment vous l'avez perçu, vous, de votre côté, sur place?
Moi, je dirais que la Chine a eu finalement tout ce qu'elle voulait de l'accord, dans le sens où c'était vraiment avoir un espace qu'elle souhaitait, un lien plus fort avec l'OMC, parce que sa critique, c'est que à l'OMC, on parle que de commerce, dans la CNUC, on parle que de climat, et on met jamais les deux ensemble. À voir si ça va être un lieu où on parle de commerce avec une disposition assez ouverte et où on ne parle pas uniquement de la mesure européenne qui a cristallisé beaucoup des discussions, avec une dose de mauvaise foi aussi, parce qu'effectivement c'est pas du tout la seule mesure qui sert à mettre des barrières pour protéger une industrie naissante ou pour éviter d'avoir une dépendance stratégique trop importante. Notamment, une des choses assez intéressantes qui s'est passée il y a pas longtemps, c'est qu'à l'OMC, la Chine a lancé une enquête contre les producteurs de véhicules électriques indiens. Et c'est amusant parce que c'est vraiment à des années-lumière des dynamiques qu'on voit dans les COP. Ça montre qu'en fait, voilà, le débat est pas si noir et blanc que ça.
Mmh. Audrey Garrigue, vous voulez ajouter quelque chose ?
Non, j'ai juste en tout cas, oui, je trouvais ça intéressant que ce soit la première fois que ça s'invite vraiment à ce point dans la COP, mais c'est vrai que c'est pas étonnant vu qu'on est dans une période de guerre commerciale extrêmement importante. Et moi, j'ai juste parlé avec un.
Mais c'est le reflet d'un contexte, hein.
Du contexte, oui.
Ouais.
Après, il y avait le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières européens et pour d'autres experts, le problème c'est aussi évidemment les droits de douane américains qui perturbent l'ensemble et qui rendent les positions très tendues sur ce sujet du commerce. Et est-ce qu'on peut aller ensemble, décarboner ensemble, ou est-ce que les intérêts nationaux sont trop importants, il y a tellement d'argent derrière que c'est pas possible de collaborer, quoi. C'est une grande question.
Mais Marc-Antoine y a fait référence, mais la Chine maîtrise 19 des 20 métaux rares les plus importants et a vraiment resserré ces derniers mois ses exportations, notamment en rétaliation de ce que faisaient les États-Unis, mais ça a impacté effectivement tout le monde. Donc, bon, finalement, on aurait beaucoup de choses à dire sur beaucoup de pays si on fait ces dialogues-là.
Et oui, alors à ce stade de l'émission, vous gardez la parole, Lola Vallejo, parce que vous allez nous partager votre choix musical. Vous avez choisi Cartola, qui chante. Alors, je vous laisse peut-être prononcer le titre.
Preciso me encontras, oui. C'est bon, évidemment la musique brésilienne, c'était un plaisir de l'écouter à la COP30 et c'est aussi le moment de c'est quelqu'un qui parle du fait qu'il se cherche et je trouve que c'est intéressant quand on regarde ce qui s'est passé à la COP et ce qu'il faudrait qu'il se passe ensuite.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, ir pra não chorar. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, ir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar e pra não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar depois que me encontrar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar.
C'était Cartola qui chante. Je vous laisse prononcer, vous prononcez mieux que moi, Lola Vallejo.
Cartola.
Et qui chantait Preciso.
Bien contraire.
Voilà, bon, c'est toujours mieux que moi, en tout cas. Merci à vous. Et c'est la suite de Cause à effet, le magazine de l'environnement sur France Culture. Nous poursuivons notre émission sur la COP30 à Belém, au Brésil, après le clap de fin. Quel bilan et quel horizon se dessine pour l'humanité et la planète. Une émission en partenariat avec le journal Le Monde, avec à mes côtés Audrey Garrigue, journaliste au Monde, aux pages Planète, justement, et envoyée spéciale à Belém, Lola Vallejo, directrice diplomatie à la Fondation européenne pour le climat, et puis Marc-Antoine Aelmazega, directeur du Centre Énergie et Climat de l'IFRI, et l'Institut français des relations internationales, et co-auteur avec Diana Paula
Gerasim.
du livre donc la géopolitique du carbone, j'y arrive, paru aux éditions Le Cavalier Bleu. Allez, rapidement peut-être le méthane. Le méthane, ce n'est pas bénin. Est-ce que on en a discuté quand même, ce gaz, ce puissant gaz à effet de serre responsable d'un tiers du réchauffement climatique depuis l'ère pré-industrielle? Est-ce que la question a été abordée et discutée? Oui, Audrey Garic.
Elle a été discutée, mais moi je trouve de manière assez décevante. On avait annoncé quand même en amont comme étant un des sujets importants de cette COP. Le président français Emmanuel Macron l'avait dit en amont lors du Forum de la paix à Paris. Il l'avait redit lors de son intervention du sommet, lors du sommet des leaders, le sommet des dirigeants le 6 novembre, qui était le lancement de la COP. Et finalement, il n'y a pas eu grand-chose qui en est ressorti. Il devait avoir un autre sommet spécial sur le méthane pendant la COP. En réalité, c'était plutôt une réunion ministérielle et qui n'a pas débouché sur énormément d'avancées, en fait, sur plutôt une déclaration de quelques pays volontaires pour mettre fin aux émissions de méthane dans le secteur des combustibles fossiles et notamment et supprimer les fuites, éviter le torchage et d'autres techniques. Et après, il y avait une annonce aussi de pouvoir payer pour des 6 pays ou 7 pays en développement des bureaux au sein des gouvernements avec des experts qui traiteraient de cette question, mais c'est assez limité et on est très très loin d'un engagement pour tous les pays et puis qu'il soit contraignant. Et c'est fort dommageable puisque c'est, donc je voulais rappeler le contexte quand même, le méthane c'est un gaz à effet de serre extrêmement polluant qui est beaucoup plus émetteur à court terme que le dioxyde de carbone.
80 fois plus, hein, je crois.
80 fois plus sur 20 ans. Donc il est responsable d'un tiers du réchauffement climatique et c'est une solution actuellement facile pour limiter un petit peu le réchauffement. On pourrait gagner 0,2 ou 0,5 degrés de réchauffement au moins. Ça peut paraître insignifiant, mais en fait, c'est énorme dans les impacts. Oui. Et ça, c'est ça qui nous permettrait à ce stade de rester autour d'un degré 5, qui est l'objectif de l'accord de Paris. Et ce qui est d'autant plus frustrant, c'est que les solutions sont connues et elles sont le plus souvent très peu chères, ou en tout cas, le rendement après qu'on en retire de ces solutions est supérieur au coût des solutions. Donc, on sait comment s'attaquer au méthane, surtout dans le secteur des combustibles fossiles et aussi dans le secteur des déchets et dans le secteur de l'élevage, ça c'est plus compliqué. Mais en tout cas, il y a une partie qu'on pourrait supprimer très rapidement de ces émissions.
Alors, rapidement, Lola Valéjo, comment on explique le fait que ça ne passe pas la rampe ? Si c'est si facile finalement, enfin c'est voilà, c'est pas un gros effort non plus pour pouvoir trouver des solutions.
Je pense que ça pose aussi la question du secteur gazopétrolier qui se pose comme une solution au réchauffement climatique et notamment à Dubaï, on a vu les Émirats Arabes Unis essayer de faire une première coalition de pétroliers qui prennent des engagements pour le méthane. En fait, 2 ans après, on a aucune idée de est-ce que ça a été couronné de résultats, qu'est-ce qui a été investi, il y a vraiment très très peu de redevabilité et de transparence sur ce qui a été fait. Alors que, effectivement, c'est sans doute sur des 3 secteurs dont parlait Audrey tout à l'heure, déchets, agriculture et fossiles, c'est sans doute sur les fossiles que c'est le moins coûteux et le plus efficace.
Marc-Antoine Elmazega.
Je partage tout ce qui a été dit, mais juste peut-être pour apporter 2 éléments. Le premier, c'est qu'il y a vraiment un travail de fond qui a lieu, et au niveau des entreprises pétro-gazières, alors il y a 2 types d'entreprises, il y a les compagnies privées et il y a les compagnies nationales. Et en fait, les compagnies privées se sont mobilisées en premier, tardivement, on peut dire que tout ça arrivait trop tard, etc., mais enfin, il y a un vrai boulot de fait, et elles accompagnent un certain nombre d'entreprises nationales pour les aider à maîtriser ces émissions-là, ces rejets-là, fermer les fuites et réduire tout cela. Donc ce travail a lieu, alors ça va sans doute pas assez vite, etc., mais c'est très réel. Et puis, quand même, sur les émissions liées au secteur agricole, donc les déchets, et puis surtout, en fait, les décharges à ciel ouvert, parce que là, c'est un immense sujet. En fait, il n'y a pas de business case pour aller couvrir des décharges, empêcher les fuites de méthane, etc. Et c'est là où les Européens pourraient agir, parce que dans ces objectifs 2040 dont il est question, il y aura une marge pour ce qu'on appelle des crédits carbone internationaux. Et si les Européens étaient un peu stratégiques, par exemple, eh bien, ils pourraient décider que on va se réserver la possibilité d'aller effectivement réduire les émissions de méthane des décharges à ciel ouvert au Caire ou je ne sais où.
Avec un vrai savoir-faire en plus.
Avec un vrai savoir-faire. Il y a des solutions technologiques pour le faire, mais encore une fois, on ne pourra jamais faire ça de façon rentable. Donc il faut qu'il y ait en réalité un tel mécanisme qui pourrait permettre d'avancer là-dessus.
Alors, autre sujet, les lobbies se sont largement invités à la COP 30. C'est le cas hein, depuis déjà plusieurs COP. Au risque de décrédibiliser peut-être ces grands événements, 1600 lobbyistes du secteur des énergies fossiles. Est-ce que c'est aussi le signe, quelque part, que s'ils sont si nombreux, c'est qu'ils craignent pour leur secteur ou pas forcément, l'eau lave les joues?
Déjà, je repars sur ce que disait Marc-Antoine tout à l'heure, les énergies fossiles, les compagnies, il y a des multinationales, et puis il y a des États, il y a aussi des grandes... on parle beaucoup de l'Arabie Saoudite parce qu'ils sont très visibles et qu'ils sont vraiment le fer de lance du ralentissement, en fait, donc, quand on parle de fossiles. Mais on était aussi, c'était aussi le cas, quand on a eu la COP en Azerbaïdjan, aux Émirats Arabes Unis, il y a beaucoup de pays qui ont ces compagnies qui ont un rôle très... très important. Moi, ce que je trouve quand même assez génial, mais au sens de un peu cynique, c'est que dans beaucoup de ces pays-là, on essaye de réduire sa dépendance aux énergies fossiles. Et on essaye, par exemple, en Arabie Saoudite, de sortir du pétrole pour fabriquer de l'électricité et de déployer plein de renouvelables, par exemple. Avec l'idée que comme ça, on va vendre encore plus de pétrole. Mais je trouve ça amusant quand même de se dire que même dans ces pays-là, en fait, le fait que c'est irréversible et qu'en fait, on a accès à beaucoup de technologies qui permettent de générer de l'électricité d'une manière économiquement fiable, c'est une réalité. Ça se traduit pas du tout dans les discours. Et l'Arabie Saoudite est toujours, par exemple, pied à pied pour dire il ne faut pas électrifier les usages. On peut tout à fait envisager des solutions technologiques beaucoup plus compliquées, etc. Mais quand on regarde ce qui se passe sur le plan économique, le signal, il est beaucoup moins brouillé que ce que les COP laissent entendre.
Marc-Antoine Elmazega, sur le jeu des pays pétroliers, justement, je peux peut-être préciser que vous avez pendant quelques années été à l'Agence internationale de l'énergie.
Les pays pétroliers veulent maximiser leur rente, logiquement, mais être aussi quand même à l'avant-garde sur la fabrication, la production d'un certain nombre de molécules ou de gaz décarbonés. Et puis, dernièrement aussi, ils veulent se positionner sur les chaînes de valeur liées aux métaux. Donc, en fait, ils veulent jouer sur tous les tableaux et être centraux à la fois dans le monde d'avant et dans le monde d'après. Et d'ailleurs, leur position géographique les place aussi en capacité de servir tous les grands marchés de consommation. Et donc, en fait, eux arrivent avec une idée selon laquelle, quand même, ils sont profondément convaincus que oui, il y a une transformation technologique, mais si on peut la ralentir, c'est pas plus mal. Eux veulent montrer qu'on peut faire du clean oil, tout comme le président Trump dit qu'on va faire du clean gas, et que d'ailleurs c'est déjà fait, point barre. Mais qu'est-ce qu'on attend par là? Il y a quand même des réalités derrière, c'est-à-dire que par exemple...
Donc, c'est-à-dire Aramco, c'est du pétrole clean et...
Par exemple, l'Aramco a une empreinte carbone par baril produit, c'est la plus faible au monde. Pourquoi? Parce que en fait, tous les process sont électrifiés. Alors, après, la question, c'est d'où vient le mix électrique? Et là, ils sont un peu en retard, mais enfin, ça y est, ils ont pris le virage et ça va se faire très vite, très fort parce que c'est à la saoudienne. Donc, une fois que c'est enclenché, ça a lieu. Mais de la même façon qu'un certain nombre de grands groupes pétroliers cherchent aussi à électrifier leur production. Donc, effectivement, ça réduit un peu l'empreinte de production. Évidemment, ça réduit pas l'empreinte de consommation. Mais enfin, donc, eux sont un peu dans cette approche-là. Et puis, ils considèrent qu'ils ont les coûts de production d'hydrocarbures les plus bas au monde, bon, c'est un fait, et que donc, au fond, eux continueront de produire la dernière goutte, et tous les autres s'évinceront avant, et en même temps, ça leur permettra de financer la diversification de leurs économies, etc. Mais ils sont évidemment embêtés par deux choses. La première, c'est qu'il y a quand même encore un vrai défi chez eux, c'est la main-d'œuvre. Ils ont besoin d'énormément de main-d'œuvre pour réaliser leurs ambitions, et forcément, ça coince. Et le deuxième défi, c'est que eux aussi, parfois, font face à des incertitudes sur les grands choix technologiques. Par exemple, l'hydrogène, un vif intérêt, mais qui est retombé, évidemment. Mais ils ont une flexibilité, c'est-à-dire qu'ils peuvent réduire tout d'un coup, tout comme leurs dépenses budgétaires, et s'adaptent. Et puis, en ce moment, évidemment, ils investissent massivement dans tout ce qui est infrastructure numérique et digitale, et pour ce pourquoi il faudra énormément d'énergie.
Avec les data centers, oui, et pas qu'un peu.
Énormément. Et donc, les solutions, c'est quoi? C'est bien sûr beaucoup de photovoltaïque. Ils voient bien l'intérêt maintenant qu'il y a à faire ça. Ils vont aller vers le nucléaire aussi. Ça, c'est pour un temps un peu plus long. Oui. Et puis, en attendant, ils vont construire des centrales à gaz, turbiner du gaz.
L'Europe devrait aller sur quoi?
Ben, nous, nos choix sont faits. On a déjà 75% d'électricité bas carbone en Europe. Alors souvent, quand on parle de l'Europe, on oublie ça. Mais c'est quand même une vraie réussite européenne. On a pratiquement plus de charbon. La prochaine COP aura lieu en Turquie. Mais la Turquie, c'est désormais le premier consommateur de charbon dans le système électrique en Europe. C'est plus la Pologne. Donc, on avance quand même à grands pas. Maintenant, pour nous, le sujet, c'est comment produire cette énergie et la vendre de façon compétitive aux industriels.
La compétitivité, voilà. Les emplois, l'industrialisation.
Voilà. Et donc, automatiquement, on va arriver dans un système où on va créer des subventions croisées. On n'a pas le choix. Et de sorte que certains paieront plus et d'autres paieront moins. Mais il va falloir donner des conditions. C'est pas gratuit non plus de bénéficier de subventions. Donc ça, c'est tout le sujet qu'on a en Allemagne, auquel on est un peu confronté en France aussi.
Quelqu'un veut rajouter quelque chose ? Non, sur le sujet. Alors on peut passer à un autre sujet important, la société civile et les ONG ont donné de la voix également à la COP30 à Belém au Brésil, retrouvant une place là, enfin, dans ces enceintes internationales. Écoutez d'abord ce reportage avant d'en discuter, un reportage diffusé sur TV5 Monde le 15 novembre 2025.
Marcher pour ne pas être oublié. Dans les rues de Belém, des milliers de personnes, autochtones, militants et citoyens, se sont retrouvés pour un rassemblement géant long de plus de 4 km. Pancarte à la main, drapeau sur les épaules, tous ne réclament qu'une chose, que les dirigeants et les organisations qui participent aux négociations de la COP30 tiennent leurs promesses.
Femmes, jeunes, peuples autochtones et communautés riveraines s'unissent pour exiger la justice sociale et la démarcation des terres autochtones. Notre terre et notre forêt ne sont pas des marchandises. Respectons la nature et les peuples qui vivent en forêt.
Je souhaite que les dirigeants mondiaux comprennent qu'il n'y a aucun intérêt à exploiter davantage de pétrole, davantage de mines, car les forêts ne peuvent plus supporter les abus. Le climat n'est pas négociable, la terre-mère n'est pas à vendre et nous devons protéger nos forêts.
Alors au niveau de la société civile, qu'est-ce que vous avez pu remarquer, repérer, analyser, Audrey Garic ?
Bah déjà, il y avait la très grande marche du samedi 15 novembre qui était un événement, comme vous l'aviez dit, c'est la première fois depuis 3 ans qu'il y a une marche comme ça, parce que dans les 3 précédentes COP qui étaient en Égypte, aux Émirats Arabes Unis et en Azerbaïdjan, il y a eu une mobilisation au sein de la COP dans les locaux, mais pas dans la rue, parce que ce sont des régimes autoritaires et voilà qui donnent pas de place à la société civile. Ou peu. Donc là, c'est très fort. Il y a beaucoup d'énergie. Mmh. Tout le monde a marché dans le lieu jusqu'à la COP et énormément de représentants des peuples autochtones qui étaient présents et qui montraient leurs préoccupations sur beaucoup de sujets, sur la déforestation, sur le poids de l'agrobusiness, sur l'accaparement des terres, les pesticides. Quoi. Ils ont exprimé pas mal et aussi la sortie des fossiles. En fait, de manière générale, c'était l'extractivisme, le fait de s'accaparer des ressources importantes. Et oui, ils voulaient montrer comment protéger la nature et les forêts autrement. Donc ça, c'était très beau. Et après, il y avait beaucoup de mobilisation tout au long de la COP. Les ONG et aussi les peuples autochtones étaient très, très présents, très vocaux. Et des affrontements aussi qui ont été assez importants. Ça, c'est pas tout le temps, je pense, où il y a eu 2 fois, en tout cas, des peuples autochtones qui ont essayé de forcer la sécurité pour essayer de rentrer dans les salles de négociation et affronter la sécurité brésilienne et de l'ONU, et qui a donné lieu à une rencontre après avec le président de la COP, et sur des questions là que je maîtrise beaucoup moins, en tout cas de délimitation de terres au Brésil, et ils ont été entendus, il me semble.
Et in fine, hein, Lola Valéjo, sur la déforestation, les résultats sont... À
oui,
minima.
C'est vrai que quand on arrivait sur le lieu de la COP, on avait partout des messages, c'est la COP de la forêt.
Et oui, parce que c'était juste au bord de l'Amazonie.
Alors, il y avait effectivement l'emplacement qui n'était vraiment pas choisi au hasard, oui. Mais je pense qu'il y avait aussi cette promesse que ça allait être la COP de la forêt. On a eu quand même un nouveau fonds qui a été lancé par le Brésil, qui s'appelle le Tropical Forest Forever Fund, qui en gros rémunère les pays qui ont des forêts tropicales, donc c'est bon, surtout la RDC, le Brésil et quelques autres, pour en gros ne pas couper les forêts et les restaurer, en laissant une place importante aussi au financement privé. Au-delà de ça, et ça a été annoncé en début de COP, il n'y a pas eu beaucoup d'avancées. Le président Lula a parlé à la fois d'une feuille de route pour sortir des fossiles et aussi pour lutter contre la déforestation.
En sachant que peu de temps avant le début de la COP, il avait autorisé un nouveau forage pétrolier à l'embouchure de l'Amazon.
Et moi, je crois que c'est pas un hasard du tout. Je pense que cette sortie très médiatique qui a ensuite donné littéralement du vent dans les ailes de tous les négociateurs qui étaient pour cette idée-là, de ces fameuses feuilles de route, c'était une réponse directe aussi, sans doute, aux critiques domestiques qu'il y a eu et à la mobilisation très forte des peuples autochtones. Donc je pense qu'une bonne partie de ce qui s'est joué aussi dans la COP à Belém, c'est le jeu politique au Brésil et de certaines parties prenantes qui demandaient plus d'ambition de leur président.
Alors, une assemblée citoyenne mondiale sur le climat pour la COP 2026, si j'ai bien lu, en tout cas, la presse qui a couvert l'événement, 105 personnes tirées au sort devront délibérer sur l'agriculture, le climat. Est-ce qu'on est en train peut-être de voir se monter un lobby citoyen de la Vallejo ou pas? On en est loin peut-être.
J'espère pas un lobby, en tout cas. Les gens vont être choisis un petit peu au hasard, pas en ayant des intérêts directs. Je pense que c'est aussi ça la définition du lobby. Mais en tout cas, oui, l'idée d'avoir une sorte de nouvelle forme de partie prenante dans les COP, qui ne soit pas via le média ou l'intermédiaire que sont les entreprises, les autorités locales, les ONG. Bon, on pourrait dire aussi que c'est aussi autant d'acteurs non étatiques qui représentent quelque part les citoyens. Mais là, l'idée, c'est d'être beaucoup plus en prise directe et aussi d'envoyer des messages qui soient beaucoup plus connectés directement avec la science et de façon beaucoup plus systémique, c'est-à-dire qui couvre les différents secteurs de l'action.
En tout cas, on entend qu'au-delà des COP, puisque maintenant on peut dire « et maintenant », au-delà des COP, peut-être d'autres solutions semblent émerger, ou en tout cas, on appelle à d'autres solutions du côté d'autres acteurs, notamment les villes, les régions, les citoyens. Est-ce que cela, c'est peut-être un mouvement en marche?
Je pense que ça, c'est quelque chose d'important quand on voit qu'on a des reculs très forts et très brutaux quand on a des changements d'administration. On le voit aux États-Unis, on l'a vu en Australie. Et souvent, à chaque fois, on avait quelque part une police d'assurance qui était qu'on a un échelon au niveau d'État, de province, quelle que soit la façon dont il s'appelle. Ces différents gouverneurs, par exemple, peuvent faire en sorte qu'on ait quand même une voie à engager sur la lutte contre le changement climatique. Et puis aussi, ce qui est aussi intéressant quand on passe par ce type d'acteurs, c'est qu'on passe beaucoup de temps sur le comment. On est beaucoup moins dans des questions de principe et de jeux de puissance entre pays qui peuvent être vraiment assez déconnectés des questions que se posent ces responsables-là, qui se disent « d'accord, mais j'ai quand même un problème de pollution locale, d'accord, j'ai un problème d'emploi ». Et en fait, ça peut créer des ponts de manière beaucoup plus simple, parfois, à travers des pays qui sont parfois à couteau tiré dans les COP.
Oui, et puis en attendant, le temps file, les événements climatiques dramatiques se multiplient. Faut-il penser à ce qui s'est passé récemment aux Philippines, en Iran, dans les Caraïbes, et puis en Europe, en France aussi. Tout le monde, aujourd'hui, mesure combien le réchauffement climatique s'accélère. Un mot de la fin, peut-être, pour les uns les autres. On arrive quasiment au terme de l'émission.
Comme chaque année, je trouve que ça, oui, la question se repose de comment réformer les COP, et c'est ce que dit Lola, d'intégrer davantage les acteurs sous-étatiques, les citoyens, les villes, pour montrer comment ça se passe chez eux, puisque maintenant le sujet c'est moins de négocier des textes que de les mettre en application, donc comment on peut faire au niveau local pour que ça avance et pour qu'après ça se ressente dans les COP qui sont que des caisses de résonance au niveau international.
Merci à tous les trois. Donc, prochaine COP 31 à Antalya, c'est ça, en Turquie, en 2026, présidée par l'Australie. On aura l'occasion d'y revenir. Merci beaucoup, Audrey Garry, qui a conseillé, bien sûr, vos articles et ceux de Perrine Moutarde, Mathieu Goard, qui étaient les envoyés spéciaux du Monde à Belém. Lola Vallejo, merci à vous. Marc-Antoine Aelmazega, je rappelle le titre de votre livre, coécrit avec Diana Paula Gerasim, Géopolitique du carbone, paru aux éditions Le Cavalier Bleu. Et puis, bien sûr, biographie, information, autres podcasts vous attendent sur notre site franceculture.fr, rubrique de cause à effet.